6h presque 3 minutes, nous sommes jeudi matin. Bonne journée, bienvenue au 98.5 FM. Alors, on jette un coup d'œil aux prévisions météo qui sont un petit peu différentes de ce qui était initialement prévu. Mais ça va se corriger quand même assez vite, là. Donc, ce matin, c'est généralement nuageux. Il y a peut-être de la pluie, encore quelques averses dans votre coin. Mais pour le début de la journée seulement, après quoi, soleil-nuage en alternance, avec des vents de 20 à 40 km/h, le maximum prévu 26 degrés, l'humidex à 31. Et ce soir et cette nuit, quelques nuages, minimum de 14 degrés durant la nuit. Et demain, vendredi, on prévoit soleil-nuage avec un maximum de 23. Pour le week-end jusqu'à maintenant, soleil-nuage encore une fois, 24 degrés. Et dimanche, on prévoit du soleil, 28 degrés. Je dois vous dire que pour l'instant, pour le début de la semaine, encore là, on prévoit du soleil puis des températures de 25-27 degrés, ce qui va nous amener tout doucement vers le merveilleux week-end de la fête du travail. Puis on sait qu'il y a aussi la rentrée scolaire qui s'amorce la semaine prochaine. Première nouvelle ce matin, on a appris, Radio-Canada, la presse, là, que la famille de Jonathan Bété poursuivait la Sûreté du Québec pour 10 millions. Quand on parle du clan Bété, on parle de Jonathan Bété lui-même, de ses parents et de l'entreprise familiale. Essentiellement, pourquoi? Ils se disent victimes d'une campagne menée par la Sûreté du Québec avec un impact réel sur leur vie. Jonathan Bété vivrait pratiquement reclus d'aide sociale et ne peut pas vivre normalement parce qu'il a été stigmatisé, prétend-on. Il est maintenant donc isolé socialement, professionnellement. En plus d'avoir fait l'objet de menaces de mort, l'étiquette de pédophile et de tueur d'enfants lui a été accolée. Il ne pourra au Québec retrouver une vie normale. L'entreprise a périclité. Bref, on veut faire payer pour 9 millions les dommages qu'on évalue et 1 million comme dommages punitifs. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Il y a des choses, comment dirais-je, où la prudence nous impose un certain silence. Mais ce qu'on peut dire, c'est que c'était pas une partie de pêche, là. On n'est pas parti dans le hasard des choses en disant, tiens, on va prendre cette personne-là. Premièrement. Deuxièmement, est-ce qu'on peut blâmer ou reprocher à la Sûreté du Québec d'avoir déployé des moyens extraordinaires pour essayer de trouver l'assassin de Cédrica Provencher? Et pas juste le trouver, réussir à avoir la preuve et le faire condamner. On peut-tu reprocher à la Sûreté du Québec d'avoir fait ça? C'est une histoire, je pense, qui génère beaucoup de frustration. On voit que la famille Bété est extrêmement frustrée. Et je doute pas qu'il y a des conséquences à ça. Mais je peux vous dire que les policiers, policières de la Sûreté du Québec impliqués dans cette histoire-là sont également frustrés. T'sais, il arrive parfois qu'on est convaincu que telle personne a commis tel crime ou que telle personne est reliée à tel événement. Puis qu'on n'est pas capable d'en faire la preuve devant un tribunal. Ça peut générer de la frustration de la part d'enquêteurs. Puis on a vu ça dans des causes, appelons ça de corruption, ce qui amène des fuites. Dans un cas de meurtre d'enfant, c'est décuplé. Et moi, je comprends ça. C'est vrai qu'ils ont déployé une stratégie pour essayer de le coincer. Et la stratégie a été démolie par un juge qui a dit que admettre les éléments en preuve équivaudrait à lancer le message voulant que la fin justifie toujours les moyens, quels qu'ils soient. Donc, on reprochait à la police d'avoir lancé ses recherches sur la base de vagues hypothèses, voire une simple intuition plutôt que des soupçons sérieux. Je pense pas que c'était une simple hypothèse. Je pense pas qu'on était sur une intuition, puis on n'était pas en train de lire dans les feuilles de thé, là. Alors, évidemment, ça va aller devant le tribunal, parce qu'on le sait, c'est une cause qui va évidemment défrayer la manchette, là. Et dans un sens, j'ai hâte de voir un peu l'argumentaire. Mais ce matin, je vous le dis, je suis un peu les mains liées, là, parce qu'il y a des questions légales dans ça. Mais je pense que vous comprenez un peu ce que je veux dire. L'autre nouvelle qui fait pas mal jaser, puis on va y revenir avec une psychiatre un peu plus tard ce matin. Il y a un premier constat qu'on fait concernant l'autisme, les différentes variétés, différentes formes, c'est que le diagnostic a augmenté considérablement. On a de plus en plus de cas. Il semble qu'aux États-Unis, la prévalence de ce trouble de développement serait passée entre les années 60 et aujourd'hui de 0,05 % à plus de 2 %. Au Québec, le taux déclaré, c'est 2 %. Et c'est c'est un diagnostic qui revient souvent. Alors, on a publié hier, c'est un chercheur montréalais qui l'a fait, une méga-étude, c'est-à-dire de prendre une série d'études et d'essayer d'en tirer des conclusions. Et ce qu'il dit, tout simplement, le docteur Laurent Motron, c'est que le diagnostic est fait trop rapidement sur des critères qui ne sont pas nécessairement les bons et qu'on évalue des signes de moins en moins marqués. Autrement dit, là, on a peut-être tendance à mettre l'étiquette un peu trop rapidement. Ça ne veut pas dire que l'enfant n'a pas de problème. Ça veut juste dire que ce n'est pas nécessairement ce dont il s'agit. Alors, comment on explique ça? Les médecins qui acceptent de signer un diagnostic d'autisme ne sont pas les seuls responsables de cette dérive, dit le docteur Motron. Actuellement, un diagnostic d'autisme est ce qui permet d'avoir des services dans les écoles. Quand vous avez un diagnostic, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir des trucs de l'aide par rapport à une autre pathologie, ce qui n'a pas de bon sens. Et il donne des cas d'enfants autistes qui n'ont pas nécessairement besoin de beaucoup de services. Des enfants qui ont peut-être des caractéristiques, mais qui ne sont pas non plus autistes. Bref, que ce n'est pas simple. Et que la situation est compliquée par le fait qu'il existe des formes atténuées d'autisme. Et le médecin conclut en disant d'avoir des traits, ce n'est pas la même chose que d'avoir l'autisme. Quand tu as ce diagnostic, cette étiquette, ben ça a des conséquences évidemment importantes. Un préjudice également, puis peut-être une perte de service pour des cas qui sont réels, pour des enfants qui en ont vraiment besoin, qui sont clairement des enfants qui sont autistes. Et c'est un sujet extrêmement délicat. Je me souviens des cas pour ce qui est des TDAH, où il y avait une pression de l'école qui était exercée pour qu'on fasse une prescription. Puis on disait à des parents, si ton enfant n'a pas une prescription, on va être obligé de changer d'école puis d'envoyer dans une classe. Puis là, les parents paniquaient. Puis là, encore là, chaque cas est particulier, chaque cas est individuel. Il ne s'agit pas de dire que le Ritalin, c'est pas bon puis que c'est pas nécessaire. C'est juste de dire que dans certains cas, on a surmédicamenté les enfants puis qu'on a exercé de la pression pour obtenir des prescriptions puis des ordonnances. Puis le milieu scolaire a joué dans ça. Alors, il y a quelque chose d'un peu malsain de rattacher de l'aide à des enfants à des diagnostics. Il y a des enfants là, qui n'ont peut-être pas un diagnostic pur, mais qui ont besoin d'aide. Et comme dit le docteur Motron, il y en a qui ont le diagnostic, par exemple, de l'autisme, et qui ont besoin d'une aide limitée, qui sont très bien capables de fonctionner. Alors, c'est pas blanc, c'est pas noir, mais c'est intéressant. Et surtout, j'espère une chose, que ça va mettre un stop à ces rumeurs qui associent autisme et vaccin. Et on voit des Robert Kennedy Jr. aux États-Unis qui sont des propagandistes de ça. Il n'y a rien qui fait cette démonstration-là sur le plan scientifique. Ce serait plutôt le contraire, là. Alors, je sais que tu essaies de comprendre pourquoi il y en a plus, pourquoi il y en a plus. Moi, je pense qu'il y a d'autres explications. Et l'histoire de ce mouvement anti-vaccin, bien, évidemment, tes parents, tu te dis, est-ce que si je vaccine mon enfant, est-ce que ça peut expliquer pourquoi il développe des symptômes. On va aller retrouver Marc à 6h12, les points chauds de ce matin. Bon, la commission scolaire de Montréal va finalement se soumettre au gouvernement du Québec, c'est à peu près temps, là, et va appliquer la loi sur la laïcité. C'était assez aberrant d'entendre la présidente, Mme Arelle Bourdon, printemps dernier, nous expliquer qu'on n'était pas prêt, qu'il fallait faire des consultations dans les écoles, puis que là, c'était bien le complexe, tout ça, là. Et je m'excuse, là, mais comme je lui avais dit, elle n'est pas première ministre du Québec, là. Le gouvernement du Québec adopte une loi et le rôle des commissions scolaires, c'est de l'appliquer. Et t'as beau être en désaccord, là. Pour être bête un peu, là, on ne lui demande pas son opinion, on lui demande d'exécuter l'affaire. Alors, finalement, on a décidé, c'est l'administration qui a pris cette décision-là, parce que les commissaires ont beau avoir décidé de retarder l'application. Il y a un article qui dit que la plus haute autorité administrative doit faire appliquer le bannissement des signes religieux. Dans le Devoir ce matin, on voit déjà que les offres d'emploi publiées par la Commission scolaire de Montréal indiquent très clairement que la Commission scolaire est soumise à la loi sur la laïcité et donc l'interdiction pour les enseignants, les directions d'établissement de porter un signe religieux et l'obligation pour l'ensemble du personnel d'exercer ses fonctions à un visage découvert. Je vous le dis, on peut être en désaccord, on peut être tout à fait favorable à cette disposition, mais c'est la loi. Et je sais qu'il y a, encore une fois, c'est le début de l'année scolaire, pénurie dans les écoles à Montréal de personnel, on cherche du monde, et certains prétendent que cette loi va écarter du personnel compétent. Je veux bien, mais c'est ça quand même, c'est une condition d'embauche. Et il y a des contestations devant les tribunaux, on verra. Mais la Commission scolaire de Montréal, comme n'importe quel employeur du secteur public, donc scolaire, n'a pas le choix d'appliquer la loi. On nous raconte ce matin que dans une école de Rosemont, un père a demandé à ce qu'on change de classe son enfant. L'enseignante qui était dans cette classe portait le foulard islamique. Et on a rejeté sa requête. Alors, c'est une enseignante qui, j'imagine, était déjà là. Elle a un droit acquis. Mais on n'a pas comme parent à dire, ben là, je veux pas que, parce qu'elle porte un foulard. Sérieusement, là, pensez quoi, là, que vos enfants vont être, je dirais, contaminés par des profs qui portent, tu sais, sérieusement. Je l'ai toujours dit, moi, je pense que c'était pas nécessaire, mais une fois qu'elle est là, la disposition, il faut l'appliquer. Alors ça, c'est dans le Devoir que vous retrouvez ces informations. Parlons maintenant du dossier de Capital Média, des journaux, du Soleil droit, etc. D'abord, l'espérance de vie plus courte qu'anticipée, là. Le ministre Pierre Fitzgibbon parlait de jusqu'à Noël, finalement, pour le 5 millions de l'aide gouvernementale, là, de prêt. Le syndic a dit « wow, wow, wow ». On a fait les calculs jusqu'à la mi-novembre. Là, je rappelle qu'on est rendu à la fin août. Il reste 2 mois et demi, grosso modo, là, pour essayer de dégraisser les quotidiens, trouver un acheteur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, qui sont les joueurs intéressés? Plusieurs parlent, et évidemment Québécois, parlent peut-être de d'autres, mais là, le syndic doit rendre le produit attrayant. C'est ça, entre autres, le rôle d'un syndic. Et ce qui aurait dû être fait, bien, le syndic doit le faire maintenant pour que ça soit rachetable par quelqu'un. Alors, on a compris que Québécois s'est fait tasser. M. Péladeau était assis hier, il l'a dit, et il était prêt, lui, à certaines conditions. Là, le ministre dit qu'on ne demandera pas à l'acheteur de garantir des emplois. Tant mieux si ça arrive, là. Mais ça ne peut pas être une condition dans le contexte. Et trois, de façon plus générale, le premier ministre Legault, hier, a dit 2 choses. D'abord, il a invité les Québécois à payer pour les journaux. Donc, à acheter puis à s'abonner. Encore faudrait-il que le journal soit payant. Tu sais, la presse, sérieusement, moi, depuis le début, j'ai jamais compris la stratégie de dire c'est gratos. Quoi, de penser que ça va s'autofinancer par la pub seulement, sur tablette. Puis là, tu sais, je pense qu'il y a eu une erreur dans le choix de la plateforme. On aurait dû miser davantage sur le téléphone. On sait que le téléphone, en termes de croissance, était nettement supérieur. Mais bon, une fois qu'on a fait ce constat, la question, c'est êtes-vous prêt à payer, comme pour un journal papier, vous abonner à la presse? Savez-vous quoi? Moi, je pense que c'est plus facile, vendre un abonnement que d'aller chercher un don. Tu sais, tu vas donner 50$ une fois, tu vas oublier. Tandis que si tu veux acheter la presse, ben moi, je suis prêt à payer pour ça. Puis là, quoi, ça vous intéresse pas de payer pour votre journal, vous allez vous en priver? Peut-être, mais je pense que les gens qui vont lire la presse aiment la presse et font le choix de lire la presse. Comme les gens qui achètent Le Devoir, tu sais, c'est vendu, puis achètent le Journal de Montréal, c'est vendu. Tu décides, et c'est normal. Il n'y a rien de gratos sur la terre, là, du journalisme d'opinion ou d'enquête, ben ça tombe pas du ciel. Mais quand j'écoutais M. Legault dire qu'il faudrait que les gens acceptent de payer, OK, mais il faudrait aussi qu'on accepte de charger. Deuxièmement, quand M. Legault dit le gouvernement ne va pas arrêter ses campagnes de pub sur les médias sociaux, Facebook et autres, parce que c'est là que les gens sont, puis c'est là que c'est payant, en termes de retombées. Il n'y a pas de trouble avec la compétition. Je voudrais juste que ça se passe à armes égales. Et là, c'est pas dans la cour de François Legault, c'est dans la cour principalement du fédéral. Justin Trudeau est à plat ventre devant les géants numériques. Pas capable de se tenir. On le voit en Europe, là, ça a pas mal plus de tonus. Alors, moi, je veux bien là, qu'on ait un statut particulier pour les médias sociaux, mais que les gouvernements qui n'osent pas leur imposer les mêmes contraintes, parce que les médias au Québec ont eu un paquet de contraintes et d'obligations que les Netflix ou les Facebook n'ont pas. Alors, tu sais, c'est toujours facile de faire des espèces de comparaisons tout croche, mais que le gouvernement annonce sur Facebook, c'est parfait. Mais peux-tu t'assurer que Facebook, c'est le même genre de compétiteur que les autres qui sont sur la patinoire? Donc, ça ne marche pas tout à fait pareil. Rapidement, dans les autres nouvelles, il y a Rona, je disais ça ce matin, qui est encore dans une situation difficile. Ça va pas bien chez Rona, là, depuis que Lowe's a repris ça. Et même dans les... Je vous dirais depuis le début, ça fait 3 ans que les trimestres sont difficiles. Et même le président de Lowe's, la maison mère, a fait référence dans des commentaires précis quand il a présenté les résultats du trimestre qui a pris fin le 2 août et que la situation au Canada se traduit par une baisse des ventes en magasin qui découle en majeure partie du processus d'intégration de Rona. Mais il me semble que ça, après 3 ans, ça devrait être pas mal intégré. Alors, donc dans la presse, vous pourrez lire ça aussi ce matin. Il y a le dossier des trottinettes qui revient. Dans De Gazette, on voit un peu qu'il y a une préoccupation des autorités montréalaises, des élus, mais enfin, face à la trottinette, un paquet de phénomènes qu'on ne peut observer à travers le monde. Et là, le Journal de Montréal, vous avez une trottinette dans le canal de la Chine. T'sais. Bravo, champion. Puis, j'ai reçu une photo, puis des gens qui se plaignent. Puis, t'sais, c'est comme... T'sais, c'est nouveau. Il y a une cohabitation qui est pas simple. Il y en a qui se promènent sur les trottoirs, puis il y a des piétons qui sont en train de pogner les nerfs. Ça fait beaucoup, beaucoup de trafic, si on veut, dans certains endroits de Montréal. Les libéraux fédéraux qui tentent d'étouffer l'affaire pour de bon de SNC-Lavalin. Il n'y aura pas de comité parlementaire là-dessus. Donc, on veut régler ça. Et en terminant, juste un mot sur M. Trump, qui se pogne avec la première ministre du Danemark. Lui, il a dit « Je vais acheter le Groenland ». Elle a dit que non seulement c'est oui ça, là, mais c'est totalement absurde. Et là, il est tombé dans une guerre d'insultes avec la première ministre du Danemark. Tu sais, c'est un pays où normalement, tu devrais avoir des relations plus que civilisées. C'est encore une fois dérapé hier. Et les États-Unis qui s'en vont vers un déficit quand même plus que spectaculaire. Et puis aussi, je vais vous parler de la situation concernant l'Amazonie. On l'a vu, des feux absolument gigantesques. C'est un nombre record de feux au Brésil. Les chiffres montrent que depuis le début de l'année, c'est une augmentation de 83 % et c'est tout à fait spectaculaire. C'est provoqué, évidemment, par des coupes massives. Donc, on a déjà vu des zones complètement... qui ont été ravagés, temps sec également. Alors, tout ça amène des incendies, et ça fait déjà quelques jours que ce qu'on appelle le poumon de la planète est ravagé par les feux qui sont intenses. Il est 6h23 minutes. Allons voir ce qui se passe